Chapitre 11. Chapitre court, mais assez long pour intéresser tout lecteur bon et sensible. C'était la coutume de M. Allworthy de ne punir personne, de ne renvoyer même aucun de ses gens, tandis qu'il était en colère. Il prit donc le parti de différer jusqu'au soir à prononcer la sentence de Jones. Le pauvre jeune homme vint au dîner comme à l'ordinaire, mais son cœur était trop plein pour lui permettre de manger. Sa douleur fut encore considérablement augmentée par les regards sévères de M. Allworthy, d'où il conclut que M. Weston avait découvert tout ce qui s'était passé entre Sophie et lui. Quant à l'histoire rapportée par M. Blifil, il n'en avait pas le moindre soupçon. Il en était d'ailleurs presque entièrement innocent. Quant au reste, comme il l'avait pardonné et oublié lui-même, il ne pouvait croire que les autres s'en fussent souvenus. Quand le dîner fut fini et les domestiques écartés, M. Allworthy prit la parole. Il établit et supputa dans un long discours l'énorme quantité de fautes dont Jones s'était rendu coupable, notamment celles que ce jour avait mises en lumière, et finit en disant qu'à moins qu'il ne pût se disculper des charges portées contre lui, il était déterminé à le bannir pour jamais de sa vue. Le pauvre Jones avait bien du désavantage à se défendre. À peine savait-il ce dont on l'accusait. Car M. Allworthy, en parlant de son ivresse, etc., pendant qu'il était malade, avait par pure modestie supprimé tout ce qui lui était personnel, c'est-à-dire tout ce qui constituait essentiellement le crime, en sorte que Jones fut obligé de reconnaître la vérité de l'accusation. Son cœur était d'ailleurs si brisé, et ses esprits si abattus, qu'il ne put rien dire pour sa défense. Il se confessa donc coupable, et comme un criminel qui n'a plus d'espérance, il se soumit à demander grâce, en terminant par cette assurance que, quoiqu'il fût obligé de s'avouer coupable d'un grand nombre de sottises et d'étourderies, il espérait n'avoir rien fait qui méritât ce qui serait pour lui le plus horrible des châtiments. M. Allworthy lui répondit qu'il ne lui avait déjà que trop pardonné, par pitié pour sa jeunesse, et dans l'espoir qu'il se corrigerait. Qu'il voyait bien maintenant qu'il était tellement corrompu que ce serait un crime à quiconque le soutiendrait et le favoriserait. Je dis plus, votre projet audacieux d'enlever une fille à ses parents exige de moi que je me justifie publiquement en vous punissant comme vous le méritez. Le monde qui a déjà blâmé les bontés que j'ai eues pour vous pourrait penser, avec quelque ombre de justice au moins, que je suis de connivence avec vous dans une conduite aussi basse et aussi criminelle. Conduite pour laquelle vous auriez dû connaître toute mon horreur, et que vous n'auriez jamais eu la pensée de tenir si vous aviez attaché quelque prix à mon repos et à mon honneur, aussi bien qu'à mon amitié. Quelle honte, jeune insensé! Je ne connais point en vérité de punition égale à vos crimes, et j'ai peine moi-même à me justifier ce que je vais encore faire pour vous. Cependant, vous ayant élevé comme mon propre enfant, je ne veux pas que vous soyez dénué de tout en entrant dans le monde. Quand vous ouvrirez ce papier, vous y trouverez ce qui vous sera nécessaire pour vous mettre en état de gagner honnêtement votre vie en travaillant. Mais si vous en faites un mauvais usage, je vous déclare que je ne me crois plus obligé de venir à votre secours, résolu comme je le suis, à dater de ce jour, de n'avoir plus de rapport avec vous sous aucun prétexte. Je dois vous dire encore que rien dans toute votre conduite ne me blesse davantage que vos mauvais traitements pour cet excellent jeune homme, indiquant Blifil, qui vous a toujours traité avec tant d'estime et d'amitié. Jones ne put être insensible à la cruelle amertume de ces derniers propos. Un torrent de larmes coula de ses yeux. Il semblait qu'on lui eût ôté tout à coup la faculté de parler et de se mouvoir. Il fut quelque temps avant d'être en état d'obéir aux ordres absolus de M. Allworthy, qui le pressait de partir sur le champ. Il obéit enfin, non sans lui avoir auparavant baisé les mains avec des transports difficiles à peindre et non moins difficiles à exprimer. Quelque sensible que puisse être le lecteur, s'il veut bien considérer le point de vue sous lequel Jones paraissait alors aux yeux de M. Allworthy, il ne blâmera pas la rigueur de la sentence portée contre lui. Et cependant tout le voisinage, soit par excès de sensibilité, soit par quelque motif moins pur, condamna cette juste sévérité comme une cruauté impardonnable. il n'est pas jusqu'à ceux même qui avaient auparavant blâmé les bontés et la tendresse de cet excellent homme pour un bâtard, qui passait généralement pour le sien, qui ne criassent au moins aussi haut qu'il était infâme de mettre ainsi son enfant à la porte. Les femmes, surtout, prenaient unanimement le parti de Jones, et firent courir plus de comptes à ce sujet que je n'ai de place dans ce chapitre pour en insérer. Il ne faut pas omettre une chose, c'est que dans aucun de ces comptes, on ne faisait mention de la somme contenue dans le papier que M. Allworthy donna à Jones, et qui ne montait pas à moins de 500 livres sterling. Tous s'accordaient à publier qu'il avait été renvoyé sans un sou, quelques-uns allaient même jusqu'à dire « tout nu » du château de son barbare père. Chapitre 12. Contenant des lettres d'amour, etc. Jones avait reçu l'ordre de quitter sur le champ le château et la promesse qu'on lui enverrait ses habits et ses autres effets dans le lieu qu'il indiquerait. Il partit donc et marcha plus d'un mille sans regarder et en vérité sans presque savoir où il allait. Enfin, un petit ruisseau s'opposa à son passage, il s'assit ou plutôt se jeta sur le bord et ne put s'empêcher de s'écrier avec quelque indignation « Il faut espérer que mon père ne me refusera pas cette place-ci pour me reposer ». Il éprouva ensuite les crises les plus violentes, s'arracha les cheveux et fit presque toutes les autres actions qui accompagnent généralement la folie, la rage et le désespoir. Quand il eut ainsi soulagé ses premiers transports, il commença à revenir un peu à lui-même. Sa douleur prit un autre cours et s'adoucit. Enfin, il retrouva assez de sang-froid pour raisonner avec sa passion et pour considérer quel était le parti le plus convenable à prendre dans sa déplorable situation. Ce qui le tourmentait le plus était la manière dont il se conduirait avec Sophie. La pensée de la quitter pour toujours déchirait son cœur, mais celle de causer la perte de sa réputation et de sa fortune le déchirait encore davantage, s'il était possible. Et lors même que le violent désir de la posséder l'aurait porté à suivre ce dernier parti, il n'était pas sûr qu'elle consentît à répondre à ses vœux, lorsqu'il faudrait lui faire un si grand sacrifice. Il en était encore fortement détourné par la considération d'offenser M. Allworthy et de troubler son repos. Enfin, quand même il aurait pu se résoudre à sacrifier toutes ces considérations, l'apparente impossibilité du succès vint à son secours. Ainsi, l'honneur, soutenu du désespoir, de la reconnaissance envers son bienfaiteur et d'un véritable amour pour sa maîtresse, l'emporta sur ses brûlants désirs. Et il résolut de quitter Sophie plutôt que de l'entraîner à sa ruine. Ceux qui ne l'ont pas senti concevront difficilement la vive jouissance qu'il éprouva dans les premiers moments à contempler la victoire qu'il venait de remporter sur sa passion. L'orgueil qu'il en ressentait eut tant de charme pour lui qu'il connut peut-être un moment de parfait bonheur. Mais, je le dis, ce ne fut qu'un moment. Sophie revint bientôt s'offrir à son imagination et troubla la joie de son triomphe par des douleurs non moins déchirantes que celles que doit éprouver un général bon et sensible en considérant les monceaux de mort dont le sang a été le prix de ses lauriers. Ainsi, mille pensées amoureuses venaient d'expirer dans le cœur de notre jeune conquérant. Étant bien résolu, cependant, de suivre les traces de l'honneur, ce géant, nom que lui donne Lay, ce poète gigantesque, il prit le parti d'écrire une lettre d'adieu à Sophie et s'achemina en conséquence vers une maison qui n'était pas éloignée où, après avoir demandé une plume, de l'encre et du papier, il écrivit ce qui suit. « Mademoiselle, quand vous réfléchirez sur la situation où je me trouve, je suis sûr que votre bonté pardonnera les inconséquences ou les absurdités que ma lettre contient sans doute. Mais l'abondance de mes pensées remplit et oppresse tellement mon cœur qu'elle coule difficilement sur mon papier, et que j'ai peine à trouver des expressions pour vous les rendre. Je suis déterminé, mademoiselle, à obéir à vos ordres, en fuyant pour toujours votre chair, votre aimable présence. Ils sont bien cruels, ces ordres, mais c'est une cruauté dont j'accuse le sort, et non ma Sophie. La fortune et votre propre conservation vous font une nécessité d'oublier qu'il existe à jamais sur la terre un malheureux tel que moi. Croyez que je ne vous entretiendrai pas de toutes mes souffrances si je pouvais supposer que vous dussiez les ignorer toujours. Je connais la bonté, la sensibilité de votre cœur, et j'aurais voulu pouvoir lui épargner la peine qu'il est si prompt à ressentir pour les misérables. Oh, je vous en conjure, que tout ce que vous apprendrez de mon malheureux sort ne vous donne aucune inquiétude. Je vous ai perdu, le reste est bien peu de chose pour moi. Oh, Sophie, il est cruel de vous quitter. Il est peut-être plus cruel encore de vouloir être oublié de vous. Cependant, l'un et l'autre sont nécessaires. L'amour, le plus pur amour, me l'ordonne. Pardonnez si j'ai eu l'orgueil de croire que mon souvenir pût troubler un moment votre repos. S'il était vrai, si cette gloire m'était réservée dans mon malheur, sacrifiez jusqu'à la moindre idée de moi à votre tranquillité. Croyez que je ne vous ai jamais aimé. Songez plutôt, et cela n'est que trop vrai, combien peu je vous mérite. Apprenez à me mépriser pour une présomption qui ne saurait être trop sévèrement punie. Je suis incapable d'en écrire davantage. Puissent tous les anges gardiens vous protéger éternellement. Il chercha ensuite dans ses poches de quoi cacheter sa lettre, mais il n'y trouva rien de ce qu'il avait emporté, car dans un de ses accès de désespoir, il avait jeté loin de lui tout ce qu'elle renfermait, notamment le portefeuille qu'il avait reçu de M. Allworthy, qu'il n'avait pas encore ouvert, et dont il se souvint pour la première fois en ce moment. Le maître de la maison lui ayant fourni un pain à cacheter, avec lequel il ferma sa lettre, il s'empressa de retourner au bord du ruisseau où il s'était assis, dans l'espoir d'y retrouver tout ce qu'il avait perdu. Il rencontra en chemin son vieil ami Black George, qui s'affligea sincèrement avec lui de son malheur, car il en était déjà instruit ainsi que tout le voisinage. Jones apprit au garde-chasse la perte qu'il avait faite. Celui-ci revint en conséquence sur ses pas et s'empressa de l'accompagner jusqu'au ruisseau. Ils fouillèrent ensemble jusque dans la plus petite touffe d'herbe de la prairie et avec autant de soin dans les endroits où Jones n'avait pas été que dans ceux qu'il avait parcourus. Mais ce fut sans succès, ils ne trouvèrent rien. Les effets perdus étaient cependant encore dans la prairie, mais ils oublièrent de fouiller dans le seul endroit où ils étaient, je veux dire dans les poches du dit George, qu'ils avaient trouvé un moment auparavant et qui, connaissant parfaitement leur valeur, les avait soigneusement ramassés pour son usage. Le garde-chasse, ayant mis autant d'activité à la recherche des effets perdus que s'il avait eu l'espoir de les retrouver, pria M. Jones de se rappeler s'il n'avait pas été ailleurs. « Car sûrement, dit-il, si vous les avez perdus ici depuis si peu de temps, ils devraient s'y retrouver encore, cet endroit-ci n'étant pas un passage fréquenté. » Et en vérité, c'était par un grand hasard que lui-même avait traversé cette prairie, n'y étant venu que pour tendre les pièges à des lièvres, qu'il avait promis de fournir le lendemain matin à un pourvoyeur qui partait pour Bath. Jones renonça donc à l'espoir de retrouver ce qu'il avait perdu. Il cessa même d'y penser, et s'adressant à Black George, il lui demanda avec chaleur s'il voulait lui rendre le plus grand service du monde. George répondit, en hésitant d'abord un peu, « Monsieur, vous savez que vous pouvez me commander tout ce qui me sera possible, et je souhaite de tout mon cœur qu'il me soit possible de vous rendre quelque service. » Dans le fait, la question l'avait embarrassé, car il avait, en vendant du gibier, amassé une assez bonne somme d'argent au service de M. Weston, et il craignait que Jones ne se trouvât dans la nécessité de lui en emprunter un peu. Mais il fut, au moment même, guéri de son inquiétude par la prière que lui fit Jones de porter une lettre à Sophie, ce qu'il promit de faire avec le plus grand plaisir. Et je crois en vérité qu'il y avait peu de services qu'il ne lui eût rendus avec joie, car il était aussi reconnaissant qu'il pouvait l'être, et aussi honnête homme que le sont généralement ceux qui aiment l'argent plus que toute autre chose au monde. Ils convinrent entre eux que Mrs. Honora était le moyen le plus convenable de faire passer cette lettre à Sophie. Et ils se séparèrent, le garde-chasse retournant au château de M. Weston et Jones allant à une auberge éloignée d'un demi-mille pour y attendre le retour de son messager. George ne fut pas plutôt arrivé au château qu'il rencontra Mrs. Honora, à laquelle, après l'avoir préalablement sondée, il remit la lettre pour sa maîtresse. Il en reçut en même temps une autre de celle-ci pour M. Jones, que Honora lui dit avoir porté tout le jour dans son sein et qu'elle commençait à désespérer de trouver le moyen de faire parvenir. Le garde-chasse retourna avec autant de célérité que de joie vers Jones, qui n'eut pas plutôt reçu la lettre de Sophie qu'il se retira sur le champ, rompit précipitamment le cachet et lut ce qui suit. « Monsieur, il est impossible d'exprimer tout ce que j'ai senti depuis que je ne vous ai vu. La modération avec laquelle vous avez répondu, par égard pour moi, aux insultes cruelles de mon père, m'impose une obligation dont je ne rougirai jamais de faire l'aveu. Connaissant comme vous le faites son caractère impétueux, je vous prie, encore par égard pour moi, d'éviter de le rencontrer. Je voudrais bien pouvoir vous envoyer quelques consolations. Mais croyez fermement qu'il ne faudra rien moins que la dernière violence pour me forcer de donner ma main à un homme que vous seriez fâché d'en voir le possesseur. » Jones lut cette lettre 100 et 100 fois, et la baisa autant de fois au moins. L'amour qu'il avait écarté revint s'emparer de son cœur. Il se repentit de la lettre qu'il avait écrite à Sophie, et plus encore de celle qu'il venait d'écrire et d'envoyer à M. Allworthy pendant l'absence de son messager, et dans laquelle il lui promettait et prenait l'engagement sacré de ne plus penser à son amour. Cependant, quand il y réfléchit plus froidement, il aperçut clairement que sa situation n'était ni améliorée ni changée par la lettre de Sophie, sinon qu'elle lui donnait quelques lueurs d'espérance pour l'avenir et une sorte d'assurance de sa fidélité. Il en revint donc à sa première résolution, et après avoir pris congé de Black George, il se mit en chemin pour se rendre à une ville éloignée de 5 000 environ, où il avait prié M. Allworthy de lui envoyer ses effets, à moins qu'il n'eût la bonté de révoquer sa sentence. Chapitre 13. Conduite de Sophie dans la circonstance présente. Elle ne sera blâmée par aucune personne de son sexe, capable de se conduire de la même manière. Discussion d'un cas embarrassant à soumettre au tribunal de la conscience. Sophie avait passé les dernières 24 heures de la manière la moins agréable. Sa tante en avait employé la plus grande partie à lui faire des leçons, à lui prêcher la prudence et à lui recommander l'exemple du grand monde où, si l'on en croit la bonne dame, l'amour n'était plus alors qu'un objet de raillerie et de ridicule, et où les femmes considéraient le mariage de la même manière que les hommes considèrent les emplois publics, seulement comme des moyens de faire fortune et de s'avancer dans le monde. C'est sur ce texte que Mrs. Weston avait déployé toute son éloquence pendant des heures entières. Ses leçons de prudence, où Mrs. Weston faisait briller toute sa pénétration, quoique peu conforme au goût et à l'inclination de Sophie, furent cependant beaucoup moins fâcheuses pour elle que les pensées qui l'occupèrent toute la nuit et ne lui permirent pas une seule fois de fermer l'œil. Mais quoiqu'elle ne pût trouver dans son lit ni sommeil ni repos, rien ne l'obligeant à en sortir, son père l'y retrouva encore à son retour de chez M. Allworthy. Il était cependant plus de 10 heures du matin. Il alla droit à son appartement, ouvrit la porte, et voyant qu'elle n'était pas levée, s'écria « Vous êtes en sûreté, et je vous promets bien que vous y resterez. » Tout en disant ces mots, il ferma la porte à double tour, en remit la clé à Honora, et la chargea de veiller sur Sophie avec le plus grand soin. Il lui fit en outre les plus grandes promesses de récompenser sa fidélité, mais aussi les plus terribles menaces de la punir dans le cas où elle trahirait sa confiance. Les ordres donnés à Mrs. Honora étaient de ne pas souffrir que sa maîtresse sortît de sa chambre sans la permission expresse de M. Weston lui-même et de n'admettre personne chez elle que lui et sa tante. Elle pouvait d'ailleurs fournir à Sophie tout ce qu'elle lui demandait, excepté les plumes, l'encre et le papier, dont l'usage lui fut interdit. M. Weston ordonna à sa fille de s'habiller et de descendre dîner avec lui. Elle obéit, et après être restée à table le temps ordinaire, fut reconduite à sa prison. Le soir même, la geôlière Honora lui remit la lettre qu'elle avait reçue du garde-chasse. Sophie la lut très attentivement 2 ou 3 fois, et se jeta ensuite sur son lit, où elle versa un torrent de larmes. Mrs. Honora parut extrêmement étonnée de la conduite de sa maîtresse, et ne put s'empêcher de lui en demander la cause avec beaucoup de chaleur. Sophie ne lui fit d'abord aucune réponse, puis, se levant tout à coup, elle lui saisit la main. « Honora, s'écria-t-elle, je suis perdue !»«
Le ciel vous en préserve !» s'écria Mrs. Honora.
« Que n'ai-je brûlé cette maudite lettre, plutôt que de la remettre à madame ? Et moi qui croyais qu'elle consolerait madame, sans quoi j'aurais mieux aimé la voir entre les mains du diable, que de l'avoir touchée un moment.
« Honora, dit Sophie, vous êtes une bonne fille, et je ferai des efforts inutiles pour vous cacher plus longtemps ma faiblesse. J'ai livré mon cœur à un homme qui m'abandonne. »«
Est-ce que ce serait M. Jones ? Répondit la femme de chambre, qui serait assez perfide.
« Cette lettre, s'écria Sophie, contient ses adieux, ses éternels adieux. Que dis-je ? Il veut que je l'oublie. Aurait-il pu le vouloir s'il m'avait jamais aimé ? Aurait-il pu concevoir une telle pensée ? Aurait-il pu écrire un tel mot ?
Non, sûrement, madame, s'écria Mrs. Honora. Et sûrement, si le meilleur parti de l'Angleterre me disait une fois de l'oublier, je le prendrais au mot.
Vraiment, oui. Je suis sûr que madame lui a fait trop d'honneur en pensant à lui.
Une jeune dame qui peut choisir parmi tous les jeunes gens du pays.
Et sûrement, si j'étais assez présomptueuse pour oser vous soumettre ma pauvre petite façon de penser, il y a le jeune monsieur Blifil, qui, outre qu'il est né de parents honnêtes et sera un des plus grands seigneurs d'ici aux environs, est sûrement, dans ma pauvre petite façon de penser, de moitié plus beau et plus poli que ce monsieur Jones. Et d'ailleurs, c'est un jeune homme sage, et qui peut défier tous ses voisins de dire du mal de lui. Il ne court pas après de vilaines coquines, on ne peut mettre aucun bâtard sur son compte. Oubliez-le si vous m'en croyez. Je remercie le ciel de n'être pas encore assez vieille pour souffrir qu'un homme me dise deux fois de l'oublier. Si le meilleur et le plus orgueilleux de tous en venait me dire un mot aussi injurieux, je ne voudrais jamais le revoir après, s'il y avait un autre jeune homme à marier dans le royaume. Et comme je disais, sûrement il y a le jeune monsieur Blifil.
Ne prononce pas ce nom détesté, s'écria Sophie.
« Eh bien, madame, dit Honora, si madame ne l'aime pas, il y a des jeunes gens plus beaux et mieux faits qui seraient trop heureux de faire leur cour à madame, si on leur donnait le moindre encouragement. Je suis sûr qu'il n'y a pas un seul gentilhomme du pays ou des environs qui ne se présenta en personne pour faire ses offres si madame daignait jeter les yeux sur lui seulement d'une manière là comme qui dirait qu'elle y pense.
« À quel degré d'avilissement me crois-tu donc réduite ? S'écria Sophie. Puisque tu te permets avec moi de semblables propos. Je déteste tous les hommes.
Oh, sûrement, madame, répondit Honora. Madame doit en être dégoûtée. Être ainsi indignement traitée par un misérable sans fortune, sans parents, un vil bâtard.
Taisez-vous, point de blasphème, s'écria Sophie. Comment osez-vous prononcer son nom devant moi avec mépris ?
Lui me traiter indignement ? Non. Son pauvre cœur déchiré a plus souffert en écrivant ces mots cruels que le mien en les lisant. Je ne vois dans sa conduite qu'héroïsme, vertu, bonté. C'est un ange. Je rougis de ma propre faiblesse. Comment ai-je pu blâmer ce qui méritait mon admiration ?
Oh, ma chère Honora, c'est mon seul avantage qu'il consulte. C'est à mon intérêt qu'il se sacrifie, qu'il me sacrifie lui-même. La crainte de causer ma ruine l'a poussé au désespoir.
Je suis charmé, dit Honora, de voir que madame prenne cela en considération. Car, sûrement, il n'y va pas moins que de votre ruine, de donner votre cœur à un homme qu'on vient de mettre à la porte et qui n'a pas un sou vaillant dans le monde.
On vient de le mettre à la porte ? S'écria Sophie vivement.
Comment ? Que veux-tu dire ?
Oui, madame, c'est bien sûr. Mon maître n'a pas eu plutôt instruit M. Allworthy que M. Jones faisait sa cour à madame, que M. Allworthy l'a fait dépouiller de tout et l'a mis à la porte.
Ah ! S'écria Sophie, je suis la malheureuse cause, la maudite cause de sa ruine.
Mise à la porte, dépouillée de tout.
Tiens, Honora, prends tout l'argent que je possède, prends les bagues qui sont à mes doigts, tiens, voilà encore ma montre, va, porte-lui tout, va le trouver sur le champ.
Au nom du ciel, madame, répondit Honora, daignez considérer seulement que si mon maître s'aperçoit qu'il vous manque quelqu'une de ces choses, c'est moi qui en répondrai. Souffrez donc, madame, que je vous prie de ne pas vous défaire de votre montre ni de vos bijoux.
D'ailleurs, je crois en bonne conscience que l'argent suffit. Et quant à ça, mon maître n'en peut jamais rien savoir.
Tiens donc, s'écria Sophie, prends jusqu'au dernier sou que je possède, va le trouver sur le champ et donne-lui tout. Va, va, ne perds pas un moment.
Mrs. Honora obéit aussitôt, et trouvant Black George au bas de l'escalier, lui remit la bourse qui contenait 16 guinées.
C'était là tout le trésor de Sophie, car, quoique son père fût très libéral envers elle, elle était de son côté trop généreuse pour être riche.
Aussitôt que Black George eut reçu la bourse, il se mit en chemin vers l'auberge où Jones l'attendait. Mais en route, il lui vint une pensée, savoir s'il ne garderait pas l'argent comme le portefeuille. Sa conscience, cependant, se souleva contre cette infâme tentation et lui reprocha son ingratitude envers son bienfaiteur. À cela, son avarice répondit que sa conscience aurait dû faire cette réflexion quand il avait privé Jones de ses 500 livres sterling, que, puisqu'elle avait consenti sans difficulté à un vol d'une beaucoup plus grande importance, ce serait une absurdité, sinon même une hypocrisie trop évidente, d'affecter le moindre scrupule pour cette bagatelle.
À quoi la conscience, comme un habile jurisconsulte, répliqua en tâchant de distinguer entre une violation absolue de la confiance, comme dans le cas présent où l'argent avait été donné, et la simple action de cacher ce qu'on a trouvé, comme dans le premier cas. L'avarice traita cette objection de ridicule, démontra qu'une distinction n'était pas toujours une différence, et insista de toutes ses forces sur ce principe, que quand une fois on a abandonné toute prétention à l'honneur et à la vertu dans un cas quelconque, il n'y a pas de motif pour y recourir dans une autre occasion. Enfin, la pauvre conscience eût certainement été vaincue par les arguments de sa rivale si la peur ne fût arrivée à son secours, et n'eût soutenu avec beaucoup de force que la distinction réelle entre les deux actions ne consistait pas dans le plus ou le moins d'honneur, mais de sûreté. Qu'il y avait fort peu de danger à s'être approprié les 500 guinées, puisqu'on en ignorait le voleur, au lieu que celui des 16 guinées était presque infailliblement exposé au danger d'être découvert. Avec le secours amical de la peur, la conscience remporta donc une victoire complète sur l'avarice dans le cœur de Black George, et après lui avoir fait quelques compliments sur son honnêteté, obtint de lui qu'il remettrait à Jones l'argent de Sophie.
Chapitre 14. Court chapitre, contenant un court dialogue entre M. Weston et sa sœur. Mrs. Weston avait passé toute la journée hors du château. À son retour, son frère alla au-devant d'elle, et lorsqu'elle lui demanda des nouvelles de Sophie, il lui répondit qu'il l'avait mise en lieu de sûreté. « Je l'ai enfermée à double tour dans sa chambre, » s'écria-t-il d'un air de triomphe, « et c'est Honora qui en a la clé. » En faisant cette réponse à sa sœur, ses yeux annonçaient si clairement combien il se savait bon gré de sa merveilleuse sagesse et de son étonnante sagacité, il s'attendait probablement à être si fort applaudi de ce qu'il avait fait qu'il dut être extrêmement trompé quand elle s'écria de l'air le plus dédaigneux, « En vérité, mon frère, vous êtes le plus simple de tous les hommes. Pourquoi ne vous en rapportez-vous pas à moi? Laissez-moi gouverner ma nièce. Pourquoi vous en mêlez-vous? Vous venez de détruire tout ce que j'avais pris tant de peine à amener à bien. Lorsque j'ai fait tous mes efforts pour inculquer dans son esprit des maximes de prudence infaillibles, vous avez été la provoquer vous-même à ne pas les suivre. Les Anglaises, mon frère, et j'en rends grâce au ciel, ne sont point esclaves. Il ne faut pas nous enfermer comme des Espagnols et des Italiennes. Nous avons autant de droits que vous-même à la liberté. Il ne faut pas que raisonner avec nous pour nous convaincre. Ce n'est pas par la force qu'on nous gouverne. J'ai vu le monde, mon frère, et je sais quels sont les arguments nécessaires à employer dans telle ou telle circonstance. Et sans votre folie, j'aurais obtenu de votre fille qu'elle se conduisît par ces règles de prudence et de discrétion que je lui avais enseignées. « Vous verrez, dit M. Weston, que c'est toujours moi qui ai tort. »« Mon frère, répondit-elle, vous n'avez pas tort, excepté quand vous vous mêlez d'affaires qui passent vos connaissances. »« Vous devez convenir que j'ai vu le monde plus que vous, et il eût été fort heureux pour ma nièce qu'on ne l'eût pas enlevée à mes soins. » »« C'est en vivant ici, avec vous, qu'elle a pris ces notions romanesques d'amour qui ne sont que des sottises. » Vous ne croyez pas, j'espère, s'écria M. Weston, que c'est moi qui lui ai appris toutes ces sottises.
Votre ignorance, mon frère, répliqua-t-elle, me ferait perdre patience à la fin, comme le dit le grand Milton.
Que le diable emporte votre grand Milton, répondit M. Weston. S'il avait l'impudence de me dire la même chose en face, je lui donnerais un soufflet, malgré sa grandeur.
Patience. Ah, quant à ça, ma sœur, c'est moi qui ai souvent occasion d'en avoir. Moi, que vous traitez comme un petit écolier.
Croyez-vous donc qu'on ait de l'esprit que quand on a été à la cour?
Peste! Le monde est dans une belle passe, en vérité. Si nous sommes tous des sots, excepté quelques puritains et quelques rats d'Hanovre.
J'espère qu'il viendra un temps où nous en ferons des sots à notre tour, et que chacun jouira du sien.
Voilà tout, ma sœur, et que chacun jouira du sien.
J'espère voir cela avant que les rats d'Hanovre aient mangé tout notre blé, et ne nous aient laissé que des navets.
Je vous proteste, mon frère, s'écria-t-elle, que je ne vous comprends plus du tout. Votre jargon de navets et de rats d'Hanovre est parfaitement inintelligible pour moi.
Je crois bien, s'écria-t-il, que vous n'aimez pas à en entendre parler.
Mais qu'importe, l'intérêt de la nation l'emportera un jour ou l'autre.
Je désirerais, répondit Mrs. Weston, que vous vous occupassiez un peu de l'intérêt de votre fille. Car, croyez-moi, elle est dans un plus grand danger que la nation.
Tout à l'heure encore, dit-il, vous me grondiez de m'en occuper, et vous vouliez en être la seule chargée.
Si vous voulez me promettre de ne plus vous en mêler, répondit-elle, je veux bien m'en charger, par égard pour elle.
Chargez-vous-en donc, dit M. Weston. Mon avis a toujours été, vous le savez, que c'est particulièrement aux femmes à gouverner les femmes.
Mrs. Weston se retira aussitôt, murmurant d'un air assez dédaigneux quelque chose de relatif aux femmes et au gouvernement, et se rendit sans tarder à l'appartement de Sophie, qui, après un jour entier de prison, fut remise en liberté. Fin du livre 6e.